Bonjour Denis Gerbrand.
Bonjour Marion.
Alors merci de m'accueillir ici au cinéma L'Arvor où vous êtes venu présenter deux de vos films, Un printemps de Square et Malais en son exil. Depuis 1980, vous avez réalisé plus d'une trentaine de documentaires et la particularité de vos documentaires, c'est que vous filmez seul, vous rencontrez des gens, des personnes ordinaires, parfois au hasard, au gré des rencontres, qui vous animent dans vos documentaires, c'est de recueillir leurs paroles et surtout de donner à voir leur vie. Au plus près du réel se dessinent des histoires d'enfants, des histoires d'exil, des destins de femmes, d'hommes, à Marseille ou ailleurs, en France. Et si on remonte dans le temps, à la fin des années 70, au début des années 80, quand a été tourné le documentaire Un printemps de Square, c'est l'un de vos premiers documentaires qui sera présenté ici. Vous filmez alors le quotidien de jeunes issus du 15e arrondissement de Paris, l'année de leur bac. Et je voulais vous demander, à ce moment-là, comment avez-vous trouvé ce que vous vouliez dire, ce que vous vouliez transmettre en filmant leur vraie vie, en filmant le réel?
Oui, c'est une séance assez particulière, puisqu'en fait, il y a mon premier et dernier film, en tout cas dernier film, dans cette manière de faire en solo. Ce film Printemps du Square faisait la suite d'un reportage photographique et donc c'était mes premières armes à relativiser par le fait que je sortais de l'IDEC. L'IDEC c'est l'équivalent de ce que l'AFEMIS maintenant, hein, et que donc c'était pas la première fois que je mettais une caméra sur mon épaule. C'est un film dont on disait quand il est sorti, il y a un film quand même, il est étonnant, il y a un gars qui a filmé ses copains. Ben non, c'était pas mes copains, enfin au sens où on avait quand même 10 ans d'écart. Moi j'allais sur la trentaine et eux, ben, ils étaient autour de 18 ans. C'est un film dans lequel je me suis plongé, j'ai envie de dire très facilement, parce que... Bah, ils m'ont accueilli avec ma caméra, comme eux avaient leur guitare, moi j'avais ma caméra. Il faut bien dire qu'on est en 78 quand je tourne ce film, donc pas encore de vidéo, en tout cas de vidéo projetable sur un écran de cinéma, donc une caméra 16. Est-ce que c'est un film d'apprentissage? Oui, forcément, hein.
Quand vous parlez d'un film d'apprentissage, aujourd'hui, quel regard vous posez sur ce film-là? Parce que vous parlez d'un film d'apprentissage, mais ça vous a appris quoi, du coup, de tourner ce film?
Je comprends qu'on dise que c'était quelqu'un qui filmait ses copains. C'est que, d'une certaine manière, je suis avec eux et je les suis dans leurs propositions. D'une certaine manière, j'interviens très peu. Alors, j'interviens... Oui, au niveau du montage, parce que je mêle des éléments assez différents, parce que dans le lieu principal du square était un lieu de rencontre entre des jeunes du quartier, donc des jeunes principalement issus de l'immigration, d'un coin assez pauvre du 15e arrondissement. Le 15e arrondissement était un quartier ouvrier, un quartier même industriel, puisqu'il y avait des usines Citroën, il y avait des usines d'avions. Et évidemment, quand je filme en 78, c'est un moment tournant. Avec le recul, c'est toujours simple, hein, de parler des choses. Parce que bah, ce qui apparaît d'abord quand on voit le film, c'est le portrait d'une jeunesse... Bah pour les jeunes en question, c'est les années Woodstock. Hein.
Et Denis Gerbrand, aussi quand on parle de votre cinéma, on parle d'un cinéma à la première personne, car vous filmez sous un angle personnel, peut-être avec un point de vue. Qu'est-ce que cela vous évoque, justement, le cinéma à la première personne? Et avec vos mots, comment définissez-vous votre posture dans vos films?
Oui, cinéma à la première personne, dans la mesure où, dès le film suivant, c'est-à-dire Amoureux de l'Ape en 84, je tourne seul. C'est-à-dire qu'avec une caméra 16 mm, c'est quand même une caméra qui est dans les 12 kilos, sur laquelle je mets un magnétophone, un micro, et donc je filme, je fais des images pour le son. C'est d'abord la première contrainte de cette manière de filmer, c'est de penser en ces termes. Filmer seul, c'est d'abord filmer dans une relation directe, sans appareil, si je puis dire. Le processus implique toujours une rupture entre un moment où on va parler sans la caméra, qui parfois est extrêmement court, hein, comme vous disiez. Ben, y a des rencontres dans mon cinéma, il y a des rencontres sur le bord du trottoir, comme il peut y avoir des rencontres ou des filmages qui font suite à de nombreuses rencontres, à un travail beaucoup plus approfondi, beaucoup plus dans le temps. J'ai toujours aimé mélanger ces deux approches qui ouvrent l'espace du film. Donc filmer seul, c'est cette rupture entre le moment où on fait conversation et le moment où je vais mettre la caméra sur mon épaule, le viseur devant mon œil, et donc mon visage va être fermé, au sens où il n'y a plus d'échange de regard. C'est la place est faite à la parole de l'autre. Et à ce moment-là, je deviens celui qui soutient cette parole. Et cette place me met aussi dans une place de personnage. C'est-à-dire que je suis à la fois le narrateur, puisque c'est moi qui organise le film en tant que récit, et quelle que soit sa forme, c'est toujours un récit, mais celui aussi qui est interpellé, interpellé parfois très simplement, hein. Denis, fais attention, il y a une marche, hein. mais déjà dans l'entretien, interpellé par le regard de l'autre, qui évidemment regarde mon visage et lit sur mon visage la réception de ce qu'il est en train de dire de sa parole.
Vous parlez de laisser la place à la parole de l'autre et justement faire émerger la parole. C'est tout un art et c'est au cœur du travail de documentariste. Alors, à ce sujet, vous avez dit il y a la nécessité pour celui qui parle de porter quelque chose d'une certaine manière qui le dépasse. Justement, quand vous filmez, est-ce que vous pensez déjà à l'écho que peuvent avoir leurs mots, à l'écho des mots que vous enregistrez, ou tout cela vient après ? Comment se construisent un peu vos entretiens ? Qu'est-ce que vous voulez faire émerger des personnes que vous rencontrez ?
Quand vous rencontrez des gens dans le cadre d'un film, il y a évidemment la vision globale de ce que vous êtes en train de faire, la mémoire de tout ce que vous avez filmé et la direction dans laquelle vous allez. Dans les entretiens qui précèdent le filmage, vous êtes plus dans essayer de comprendre ce qui travaille la personne qui est en face de vous. Non pas ses failles psychologiques ou ces choses, mais réellement ce qu'elle peut avoir envie de vous transmettre, parce que c'est vraiment en ces termes que je pense le cinéma. Après, quand vous entendez quelqu'un, ma place, elle est déjà celle du spectateur, en même temps que je suis là concrètement. Hein. Je veux dire, donc il y a une espèce de dédoublement qui fait que je suis à la fois présent avec la personne que je filme, à la personne que je filme, je devrais dire plutôt, et déjà dans l'espace du film, projeté presque. Ben, y a une direction qui se dessine, il y a des propos qui vont lever, et il y a cette émotion particulière que vous pouvez ressentir quand vous avez quelqu'un en face de vous dont vous sentez qu'il est en train de s'aventurer dans un territoire qui lui est à la fois familier, parce que c'est lui, et en même temps qu'il est en train de fabriquer les mots, de poser les mots sur une réflexion qu'il trouve là à s'épanouir et à se formuler. Je ne rencontre pas des grands intellectuels, je ne rencontre pas des savants ou des théoriciens. Je rencontre des gens qui partent de leur expérience de la vie, qui partent d'eux-mêmes pour élargir, transmettre, donner quelque chose de leur expérience de la vie. Ce qui m'a toujours intéressé, c'est mettre l'autre dans un chemin qui va le mener à une réflexion. Et c'est à nous faire rentrer dans d'autres vies que la mienne, celle du spectateur, et nous faire rentrer sur la réflexion de cette vie. Quand je prends un exemple, c'est l'exemple le plus simple pour expliquer ça, c'est la vie est immense et pleine de dangers. L'Institut Curie, la pédiatrie, donc des enfants atteints du cancer, ils ne témoignent pas. Ils font des réflexions, ils réfléchissent sur ce qui leur arrive, sur les conséquences qui leur arrivent et tout le chemin que j'ai fait avec le garçon que je suis d'un bout à l'autre de son traitement, c'est qu'est-ce que ça te fait découvrir, qu'est-ce que ça t'inspire, et on joue au petit philosophe d'une certaine manière. Je ne devrais pas dire le petit philosophe parce que c'est un grand philosophe.
On peut parler d'une particularité de votre cinéma, c'est que vous avez filmé des enfants, grands comme le monde, au bout de l'enfance, et enfin le documentaire très bouleversant dont nous parlions, La vie est immense et pleine de dangers. Dans ce documentaire, on entend le récit d'enfants malades, soignés à l'Institut Curie. Ils posent des mots d'enfants sur le cancer, et votre voix est aussi là parfois pour soutenir leurs témoignages, mais toujours en recul. Et je voulais savoir déjà ce que ça change en tant que réalisateur de recueillir la parole d'enfant par rapport à votre voix, bien sûr, par rapport à la place de la caméra. Qu'est-ce que cela change? Est-ce que c'est plus difficile de mettre à distance ces émotions?
Oui, c'est vrai, on a un peu d'éthique de langage là, tous, mais ce n'était pas un recueil. En fait, chaque entretien faisait l'objet d'une négociation avec les enfants. Donc il y avait, en particulier, si on prend l'exemple de Cédric, qui est l'enfant que j'ai le plus suivi, on a fait 6 entretiens, je crois. De ces 6 entretiens, il est monté dans le film chaque fois un passage. C'est un enfant que je voyais tous les jours, mais que je filmais très peu. Sur ces 6 entretiens sur 9 mois. Donc c'était à chaque fois des étapes importantes négociées avec un rituel assez précis que je m'étais imposé, tout simplement parce qu'il ne s'agissait pas pour moi de faire des entretiens fleuves qui amènent l'enfant à baisser la garde. À dire des choses qu'il pourrait regretter, à aller dans la confidence. Il n'est pas question de confidence. Quand on se pose la question de jusqu'où on peut aller, c'est qu'on est mal parti. C'est qu'on est parti justement à chercher la faille, à chercher la psychologie, à chercher... Je ne fais pas de psychologie. Et donc j'avais ce rituel sur... La vie est immense et pleine de dangers, qui faisait que j'avais deux magasins. Deux magasins, je filmais en pellicule. Un magasin, c'est une bobine prête à être enclenchée dans la caméra. Donc j'avais deux bobines de 10 minutes et je m'étais imposé de ne pas dépasser ça pour ne pas travailler sur la fatigue, pour être dans une certaine tension. Les enfants l'avaient très bien intégré, ce temps-là. Cédric savait très bien qu'il parlait pour la caméra, parce que quand il entendait la pellicule dans les caméras argentiques, quand la pellicule arrive à la fin, il y a un petit bruit caractéristique, et il avait bien reconnu ce petit bruit, et il s'était arrêté de parler. Parce que je lui dis, pourquoi tu parles plus? Ben, ça sert à rien puisque tu filmes pas. Et c'est quand même à ce moment-là, Cédric qui donne le titre au film, il a amorcé cette phrase. Et là, j'ai chargé une chute, ce qu'on appelle une chute, c'est un restant de pellicule qui était dans le magasin. Il est monté de la première image à la dernière image, quoi.
La vie est immense et pleine de dangers, ce sont les mots de Cédric. Est-ce que finalement, à travers ses enfants, c'est aussi votre regard sur le monde qui change?
C'est des mots qui sont au-delà des mots d'enfant, c'est des mots... En faisant ce film, j'avais envie de placer les enfants dans un autre territoire que le territoire balisé de l'enfance, l'école, la famille, toutes ces institutions. Paradoxalement, j'ai senti beaucoup moins fortement l'institution en allant dans un endroit où quand même elle est puissante. Il y a quand même un nombre d'adultes penchés sur un petit nombre d'enfants qui est impressionnant. Et en fait, il y a une chose très simple, c'est que moi je me suis mis en position d'adulte filmant des enfants qui vivent des choses que moi, adulte, je n'ai pas vécues. Donc il y a une inversion de la position classique de l'adulte et de l'enfant. L'adulte est forcément porte toujours en arrière-fond ce par quoi tu passes, j'y suis passé. Hein. Ben là, j'y étais pas passé. Donc l'enfant était mis en position de m'apprendre quelque chose.
Vous avez dit à propos des personnes que vous filmez, que vous souhaitez chercher ce qu'ils ont de beau à vous donner. Cela semble banal, mais derrière cela, vous voulez aussi apprendre d'eux, vous voulez apprendre de celles et ceux que vous filmez. Qu'est-ce que vous avez le sentiment d'apprendre en tournant vos documentaires? Qu'est-ce que vous trouvez de beau chez chacun et chacune d'entre nous? Et qu'est-ce que vous apprenez d'eux?
J'ai envie de dire que je fais d'abord l'expérience d'autres vies. Et ça, c'est assez magnifique. C'est que j'ai l'impression d'être nourri de toutes les personnes que j'ai rencontrées. Non pas que je peux prétendre à dire ce qu'a été leur vie, mais quelque chose de précieux de ce qu'ils ont fait, de ce que leur vie leur dit, de ce que... Bah, l'humanité, hein, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas les humains, on va dire, peuvent représenter dans leur diversité, dans leur richesse, avoir filmé des gens qui ont traversé les massacres du Rwanda, avoir filmé ses enfants dans le cancer, avoir filmé des anciens métallurgistes, filmé des jeunes collégiens, filmé... un docker, filmé un syndicaliste, filmé... c'est une multitude de manières d'être au monde qui porte une formidable richesse, qui vous nourrit. Hein, est-ce que je suis démultiplié par toutes ces personnes que j'ai filmées? Ce serait un peu prétentieux. Mais en tout cas, ils m'accompagnent comme je pense qu'ils accompagnent les spectateurs.
Merci beaucoup, je pense que ces mots sont de très belles paroles pour boucler cet entretien. Merci beaucoup pour votre temps, Denis Garbrand.
Merci à vous et à votre écoute.